VOA Afrique.
Bonjour, au micro Idriss Assedoudia, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. La région du Sahel où l'opération française Barkhane va céder la place à une coalition internationale requiert une approche coordonnée combinant humanitaire, développement, investissement dans l'éducation et dans la prospérité économique et sécurité, a indiqué Filippo Grandi, haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, en soulignant l'importance stratégique de cette région pour l'Europe. Selon le dernier rapport du HCR sur les déplacements dans le monde publié ce vendredi, environ 750 000 personnes ont été nouvellement déplacées au Sahel dans ce qui est peut-être la crise régionale la plus complexe au monde. La dynamique de la crise est donc négative, a déclaré à l'AFP Filippo Grandi. Regardez ce qui se passe au Nigeria par exemple. Le Tchad traverse une transition politique difficile, le Mali continue d'être instable, le Burkina Faso et le Niger sont fragiles, a-t-il ajouté. Acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, l'ex-président Laurent Gbagbo est rentré hier en Côte d'Ivoire, accueilli par des milliers de partisans en liesse après une absence de 10 ans. Nous y reviendrons avec notre correspondant Siriki Baro, Jean-Roger Bion et Yacouba Ouédraogo. La Guinée et l'OMS devraient annoncer demain samedi la fin de l'épidémie d'Ebola qui, si aucun cas n'est rapporté à la dernière minute, aura été vaincue en quelques mois grâce à l'expérience acquise en 2013-2016, la pire épidémie de cette fièvre hémorragique. L'Organisation mondiale de la santé a averti hier que la troisième vague des cas de COVID-19 s'amplifie et s'accélère en Afrique, soit de 22% par semaine avec les variants. Le docteur Matshidiso Moeti, directeur de l'OMS pour l'Afrique, a réclamé une augmentation de l'approvisionnement en vaccins. 3 militaires camerounais plaident non coupables au Cameroun. Ils sont poursuivis pour le meurtre en février 2020 de 13 civils, dont 10 enfants, lors d'une opération dans un village du nord-ouest anglophone en proie à un sanglant conflit séparatiste. Au Nigeria, une université pour filles du nord-ouest a été visée hier, selon la police, par une attaque qui s'est soldée par la mort d'un policier, 3 professeurs et un nombre indéterminé d'étudiantes manquant à l'appel. Il s'agit de la 3e attaque visant des écoliers ou des étudiants en moins de 3 semaines dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, où des bandes criminelles appelées bandits par les autorités sèment la terreur. Par ailleurs, 4 Chinois employés sur un site de construction ferroviaire dans le sud-est du Nigeria ont été enlevés par des hommes armés et leurs gardes tués. Le président Félix Tshisekedi a défendu hier l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri voisine, en encourageant les habitants de Beni à collaborer avec les forces de sécurité pour venir à bout d'un groupe armé qui a tué des centaines de civils dans ce territoire de l'Est de la République démocratique du Congo. Le CIO, Comité international olympique, a indiqué jeudi qu'il va faire planter 355 000 arbres au Mali et au Sénégal pour participer au combat contre la désertification du Sahel et tenir ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Les Iraniens désignent ce vendredi sans grand enthousiasme, selon l'AFP, le successeur du président modéré Hassan Rouhani, à l'occasion d'une élection qui devrait consacrer la victoire de l'ultra-conservateur Ibrahim Raisi. Pour la seconde fois depuis la fin de la guerre éclair à Gaza, l'aviation israélienne a bombardé dans la nuit de jeudi à vendredi des cibles du mouvement Hamas dans ce territoire palestinien en représailles à des lancers de ballons incendiaires vers Israël. La panne mondiale d'Internet qui a affecté jeudi des banques et des compagnies aériennes, notamment en Australie et aux États-Unis, n'a pas été causée par une cyberattaque, a affirmé ce vendredi le fournisseur américain de services Akamai. La suite de nos informations. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, est donc bien rentré chez lui en Côte d'Ivoire. Il était attendu par ses partisans depuis l'annonce de son acquittement par la justice internationale. Comme vous pouvez l'imaginer, ils étaient des milliers dans les rues d'Abidjan pour assister à son arrivée. Malgré l'important dispositif sécuritaire, des heurts ont éclaté dans certains quartiers de la capitale économique ivoirienne entre forces de l'ordre et partisans de l'ex-président. D'Abidjan, notre correspondant Siriki Baro.
Les forces de l'ordre étaient présentes en grand nombre dans la commune de Yopougon, un quartier favorable à Laurent Gbagbo. Une présence dissuasive qui n'a pas empêché les débordements. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule, en témoigne ce partisan.
C'est la gendarmerie et puis la police qui tire la fille, tape les gens, surtout la police en train de frapper les jeunes. Moi-même j'ai reçu un coup,
Le spectacle était le même aux alentours de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Justin Kone-Katinan, ex-ministre de Laurent Gbagbo, n'a pas manqué d'exprimer son inquiétude devant la sécurité de l'ancien président ivoirien.
Nous avons de sérieuses inquiétudes quand il concerne sa sécurité, parce que presque dans l'ancien aéroport, on entend des détonations. Jusqu'à ce matin, le gouvernement et nous avions travaillé en bonne intelligence. Et nous sommes des partenaires, car aujourd'hui, on nous a signifié aucun acte administratif interdisant la sortie ou le rassemblement des personnes.
Le secrétaire général chargé de la communication au Front populaire ivoirien Tendance Gore s'explique mal l'usage de bombes lacrymogènes contre les partisans de l'ex-chef d'État.
On a été surpris par la mobilisation des forces de l'ordre d'une manière tout à fait inhabituelle. À tous les carrefours, nous avons pensé que c'était un encadrement efficient, donc des populations qui ont exprimé le besoin de venir quand même voir le président Laurent Gbagbo passer et le saluer.
Aucun bilan n'est encore disponible. Il est à noter qu'aucun membre du gouvernement n'était présent à la descente d'avion de Laurent Gbagbo. Siriki Baro, Abidjan, pour VOA Afrique.
La tension devient de plus en plus visible entre la République centrafricaine et la France. Début juin, Paris a annoncé le gel de son aide budgétaire et sa coopération militaire avec Bangui. Les autorités françaises dénoncent une campagne anti-française soutenue par la Russie et dont les autorités centrafricaines seraient complices. Comment perçoit-on cette annonce à Bangui? Précision de notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
La décision des autorités françaises est diversement appréciée en République centrafricaine, même si de nombreuses personnalités politiques ou encore de la société civile se réservent de tout commentaire, les avis divergent dans la rue.
Bon, ça va jouer très fort sur le budget centrafricain, puisqu'il faut d'abord mettre encore une politique en place pour pousser le budget de la République centrafricaine.
C'est vrai, la France nous manipule un peu. Si la France retire son aide aujourd'hui, ça va nous pénaliser même sur les paiements du salaire.
Le budget annuel gelé par Paris est de plus de 6 milliards de francs CFA. Guidacien Kossimati, un des responsables de la Galaxie 3000, une organisation de la société civile proche du pouvoir, ne s'inquiète pas. Il brandit l'expertise russe auprès de la douane centrafricaine comme une des solutions au problème.
Ça n'engage que la France. Nous, d'abord, toutes les manières, l'aide de 2020 qui tourne autour de 6 milliards n'a pas pu être décaissée, ainsi que l'aide de 2021 n'a pas pu être décaissée. C'est en grosso modo 12 milliards. Mais on s'en fout, puisque maintenant, avec l'expertise russe aux côtés de la douane, pour 3 semaines, nous avons déjà fait une recette de 39 milliards. C'est exceptionnel. Avec ces recettes, je pense que la caisse de l'État commence à être renflouée. Donc, nous pouvons dire que la RCA commence maintenant à trouver l'indépendance économique à travers ses expertises.
La suspension de l'aide accordée par la France à la République centrafricaine n'est pas définitive. Jean-Marc Grosgurin, ambassadeur français à Bangui.
Suspendu, mais ça ne veut pas dire annulé. La France, mais aussi la communauté internationale, attend des signaux positifs, des signaux forts aussi, des autorités centrafricaines pour aller vers plus de paix, de stabilité, de démocratie et de développement. C'est ça l'objectif.
Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Zambie, le premier président du pays, Kenneth Kaunda, est décédé hier à l'âge de 97 ans. Il s'était engagé dans la lutte pacifique pour l'indépendance de son pays. Kenneth Kaunda a été victime de toutes sortes d'attaques, y compris celle disant qu'il était d'origine malawite. Il est le dernier de la liste de ceux qui seront surnommés les pères de l'indépendance africaine. Le point avec Claire Moret-Gibourg.
L'ancien chef de l'État est mort paisiblement à l'hôpital où il avait été admis pour une pneumonie. Un deuil national de 21 jours a été décrété. L'actuel président, Edgar Lungu, a exprimé sa grande tristesse face à la perte d'une véritable icône africaine. Également surnommé le Gandhi africain pour son militantisme non violent, Kenneth Kaunda avait conduit l'ancienne Rhodésie du Nord à l'indépendance sans effusion de sang en octobre 1964. Il est resté au pouvoir 27 ans, en grande partie sous un parti unique. Après de violentes émeutes, il avait accepté des élections libres en 1991 et a été battu. Lorsqu'il était au pouvoir, il a soutenu de nombreux mouvements luttant pour l'indépendance. Surnommé aussi le gentil géant de l'Afrique australe en raison de sa taille, Kenneth Kaunda était connu pour les mouchoirs blancs qu'il tirait au milieu de ses discours pour essuyer une larme. Il a été le premier chef d'État étranger à recevoir la visite de Nelson Mandela après sa sortie de prison en 1990. Depuis sa retraite en l'an 2000, il s'était mis au service de la résolution des crises, notamment au Kenya, au Zimbabwe, au Togo ou au Burundi. Il s'était également engagé dans la lutte contre le VIH après avoir annoncé que l'un de ses fils, sur ses 9 enfants, était mort du sida.
La Minute Écho, Jean-Roger Dion.
Le Fonds monétaire international, FMI, prévoit une croissance de 6% de l'économie du Zimbabwe en 2021, presque le double de sa précédente prévision, en soulignant que le pays s'est montré résilient face à la pandémie et à d'autres chocs. La pandémie du coronavirus avait heurté l'économie du Zimbabwe juste après qu'elle se soit contractée de 6% en 2019, en partie en raison de l'impact de l'énorme cyclone Idai et d'une sécheresse dévastatrice. En 2020, la récession s'était poursuivie avec un recul de 4% du produit intérieur brut. Le Soudan a entrepris d'exploiter son potentiel éolien pour diversifier son mix énergétique et réduire sa dépendance aux fossiles. 3 centrales d'une capacité combinée de 300 MW sont donc en construction. La première centrale éolienne du Soudan vient de recevoir sa première turbine haute de 63 mètres. L'infrastructure rejoindra le site où la construction doit commencer. Le projet a reçu le soutien financier du gouvernement soudanais, du Fonds pour l'environnement mondial et du PNUD.
Merci Jean-Roger. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les autorités tunisiennes ont autorisé la présence de fans pour la demi-finale aller de la Ligue des champions CAF, opposant l'Espérance de Tunis à Al Ahly demain samedi. Ce sera le premier match avec du public depuis le début de la pandémie en mars 2020. 5000 personnes ont été autorisées à entrer au stade de Rhades, qui compte 60 000 places. Elles devront porter un masque et présenter un test PCR négatif. Le club égyptien Al Ahly, 9 fois vainqueur en Ligue des champions de la CAF, a éliminé fin mai le Mamelodi Sundowns FC en 8e de finale. L'Espérance de Tunis a arraché sa qualification au tir au but face aux Algériens du CR Belouizdad. Des nouvelles de l'Euro, après l'immense frayeur de l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen, Danois et Belges l'ont ovationné hier à Copenhague, avant que la Belgique n'assure sa place en 8e de finale 2-1, imitée par les Pays-Bas contre l'Autriche 2-0. L'Ukraine a résisté au retour de la Macédoine du Nord 2-1 pour se relancer vers les 8e de finale. 2 coups de cuillère ont suffi aux joueurs d'Andriy Shevchenko pour digérer leur défaite initiale contre les Pays-Bas 3-2 et revenir dans la course. En revanche, pour la Macédoine du Nord, l'élimination est actée dès ce deuxième match, après une première défaite contre l'Autriche 3-1. À suivre ce soir, Suède-Slovaquie, Croatie-République tchèque et Angleterre-Écosse. Le capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos, a fondu en larmes hier en déclarant que son départ du club merengue est l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Ces derniers mois, le club m'a fait une offre d'un an avec un salaire inférieur, mais je voulais 2 ans, a expliqué le joueur de 35 ans. Finalement, j'accepte l'offre avec la réduction du salaire
et on me dit qu'il n'y a plus d'offre. On me dit que l'offre a une date d'expiration dont je n'avais pas entendu parler. Rancheri Ramos, arrivé en 2005 au Real à 19 ans en provenance du FC Séville, le capitaine légendaire de la Maison Blanche a disputé 671 matchs, marqué 101 buts et gagné 22 titres avec le club madrilène, dont 4 Ligues des Champions et 5 titres de champion d'Espagne. NBA, le meneur des Charlotte Hornets, LaMelo Ball, est élu rookie de l'année devant deux autres meneurs de la NBA, Anthony Edwards de Minnesota et Tyrese Haliburton des Sacramento Kings. À 19 ans, Ball a marqué en moyenne 15,7 points, 5,9 rebonds et 6,1 passes décisives et réalisé 1,59 interceptions au cours de ses 51 matchs avec Charlotte, un score meilleur que celui de tous les autres débutants 2021 en passes décisives et interceptions. Son impressionnante première saison a été marquée par un triple-double lors d'un match contre les Atlanta Hawks en janvier, faisant de lui le plus jeune joueur de l'histoire NBA à réaliser cette performance. Il a aussi marqué les esprits en inscrivant 34 points contre le Utah Jazz en février.
Merci, Yacoub. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, est donc bien rentré jeudi dans son pays, pays qu'il avait été forcé de quitter il y a 10 ans. Il a été accueilli par des milliers de partisans en liesse. Jean-Roger Bion a joint pour les perspectives l'analyste politique Sylvain Nguessan, directeur de l'Institut stratégique d'Abidjan.
Cela traduit l'attachement d'un peuple ou alors d'une partie du peuple à son leader qui a dû quitter la Côte d'Ivoire dans les conditions que nous connaissons. Fait partie des Ivoiriens qui vivent sur le Royal durant tout ce temps en boycottant toutes les compétitions politiques. Même si cela a des aspects négatifs, mais c'est la marque quand même que Fidel, ses collaborateurs, ses partisans, lui étaient restés loyaux. Donc cette sortie démontre l'attachement d'une portion de la Côte d'Ivoire à son leader, M. Laurent Gbagbo.
Faut-il s'attendre à une nouvelle redistribution des cartes sur l'échiquier politique ivoirien?
L'arrivée de M. Laurent Gbagbo va retourner une certaine dynamique nouvelle à l'opposition, dans la mesure où, puisqu'il a l'opposition ivoirienne, ne s'est pas fait entendre sur beaucoup de sujets, elle n'a pas forcément utilisé les moyens constitutionnels pour se faire entendre. Je veux parler des meetings, je veux parler des discours contradictoires, je veux parler des sittings. Je pense que l'arrivée de M. Laurent Gbagbo va révigorer l'opposition et qu'il aura une dynamique nouvelle sur le terrain politique ivoirien.
Alors, quelles sont les perspectives pour la réconciliation nationale?
Lors du dialogue politique de décembre 2020, un des points d'accord était les assises nationales pour la paix et la réconciliation. Mon souhait serait que, maintenant que M. Laurent Gbagbo est là, même si M. Sokoto est encore à l'extérieur, que les leaders politiques et la société civile se retrouvent pour discuter des éléments de langage en vue d'une Côte d'Ivoire nouvelle et donc du comportement adopté et de ce que l'on a évité, un point d'accord qui puisse permettre aux uns et aux autres de regarder dans la même direction. En plus d'une Côte d'Ivoire forte. Pour moi, ce serait la solution pour éviter les plaies du passé et tenter de construire un avenir commun à la Côte d'Ivoire.
Comment estimez-vous que le pouvoir Ouattara, le régime Ouattara, doit négocier ce tournant que constitue le retour de l'ancien président?
Depuis 2011 jusqu'à présent, le RHDP a géré la Côte d'Ivoire sans contradiction. Le RHDP a géré la Côte d'Ivoire à partir de son point de vue. Maintenant qu'il y aura position en face, il va falloir que le parti pouvoir comprendre que la démocratie, c'est aussi la recherche permanente de compromis politiques. Et donc, il accepte de voir des leaders, des acteurs politiques tenir des discours contraires à ceux qui tiennent. Il va falloir qu'il accepte de voir des gens organiser des marches qui ne sont pas d'accord. Il va falloir qu'il accepte de voir des gens organiser des meetings, des titres, et donc utiliser les moyens constitutionnels en vue de contribuer à la gestion de la République. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter cette contradiction? Les trains, nous le dirons.
Sylvain Nguessan, directeur de l'Institut stratégique d'Abidjan. Le gouvernement du président Alassane Ouattara a donné le feu vert au retour de M. Gbagbo au nom de la réconciliation nationale. Monsieur Gbagbo, dont les partisans célèbrent le retour, vivait à Bruxelles depuis son acquittement de crimes contre l'humanité par la CPI en janvier 2019, confirmé en appel le 31 mars. Quelle contribution pourrait-il apporter dans le processus de réconciliation lancé par le pouvoir en place? Pourrait-il contribuer à réunifier son parti, le FPI, déchiré en son absence? Yacouba Ouedraogo, adjoint à Abidjan, Alexis Tano, analyste politique.
D'abord, le fait qu'il ait passé 10 ans hors de son pays, cela a suscité l'envie de beaucoup de ses partisans de le revoir. Et puis deuxièmement, il y a l'aspect réconciliation. Toutes les personnalités qui sont déplacées, qui sont rendues à l'aéroport, ont tous avancé l'idée qu'il y a la dernière pièce qui manque au processus de réconciliation. Donc nous croyons qu'avec l'arrivée de l'ancien président M. Laurent Gbagbo, je pense que les pièces sont réunies maintenant pour engager une véritable réconciliation nationale.
À l'arrivée de Laurent Gbagbo à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, les observateurs qui étaient présents disent n'avoir pas vu d'officiel du gouvernement pour l'accueillir. Comment vous expliquez cela?
Je crois que cette question avait été déjà répondue par le porte-parole du gouvernement, qui a dit d'ailleurs que M. Laurent Gbagbo est un citoyen ordinaire qui est parti, qui revient. Il n'y a pas de raison que le gouvernement se déplace pour aller l'accueillir. D'ailleurs, il a pris l'exemple sur l'ancien président Henri Konan Bédié, qui à chacun de ses déplacements, il n'est pas accueilli par les officiels. Et puis d'ailleurs, il faut reconnaître aussi que M. Laurent Gbagbo, c'est un personnage politique, qui a une formation politique, qui a une famille politique, et son arrivée appartient en premier lieu à sa formation politique. Jusque-là, il était en négociation avec le pouvoir en place pour permettre, faciliter son arrivée. Donc je pense que cela ne devrait pas émouvoir tant les acteurs politiques ou bien les observateurs, le fait de n'avoir pas vu un officiel à l'aéroport.
Quel geste Gbagbo pourrait concrètement poser dans le processus de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire?
Monsieur Laurent Gbagbo devrait se rendre chez lui au village à Maman pour se recueillir sur la tombe de sa mère décédée pendant qu'il était à la haie. Et je pense que c'est un agenda qui est déjà tracé. Mais concernant la réconciliation, je pense que le premier acte à poser, il devrait aller saluer le président de la République. Il a prévu aussi qu'il aille voir son allié, l'ancien président, le président Henri Konan Bédié. Mais je pense que pour la décrispation, pour qu'on parle véritablement de décrispation, il devrait se rendre sur le président de la République parce que c'est lui qui est le premier responsable du pays. Et en plus, s'insérer dans le processus de réconciliation qui a déjà été engagé en son absence. Puisqu'on disait qu'il n'était pas là, mais maintenant qu'il était là, il doit pouvoir s'insérer dans le processus et apporter sa contribution pour une Côte d'Ivoire réconciliée.
En l'absence de Laurent Gbagbo, le FPI, le Front Populaire Ivoirien, sont parti, c'est quand même déchiré hein, avec l'aile Affine Guessant et l'autre aile, les Gbagbo Ourien. Est-ce que le retour du père fondateur de ce parti-là va susciter désormais une union au sein de cette formation politique?
Oui, il faut dire que tout le monde appelle à la réconciliation et les observateurs aussi ont pensé que le retour de Laurent Gbagbo devrait permettre de réunifier son parti qui s'est délité en son absence. Je pense qu'il appartient en tant que chef, en tant que fondateur de ce parti, c'est à lui d'amorcer cette réconciliation au sein de son parti. Et M. Laurent Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, il est respecté encore par tous les bords dans son parti. Je pense que si M. Laurent Gbagbo veut bien, son parti pourra connaître l'unification et pourra redécoller sur le plan politique.
L'analyste politique Alexis Tano, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Burkina Faso, ouverture hier d'un dialogue politique. L'opposition et la majorité se retrouvent autour de la même table pour aborder les grandes questions de l'heure. Au centre des échanges, la question sécuritaire. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Ici, dans une des salles du palais présidentiel, les acteurs politiques sont en conclave. C'est la deuxième fois après 2019 que l'opposition et la majorité se retrouvent. La lutte contre le terrorisme est le principal sujet. Roch Kabore, président du FASO.
Le contexte appelle notre engagement total dans cette phase cruciale de la vie de la nation. Empreinte de défis majeurs comme la lutte contre le terrorisme, la COVID-19, la réconciliation nationale et la réponse aux fortes attentes sociales de nos laborieuses populations. Votre présence témoigne de votre engagement de consolider la paix, la sécurité et la prospérité au profit des Burkinabés. C'est pourquoi je voudrais tout particulièrement saluer la maturité de notre classe politique, dont les contributions aux précédentes sessions de dialogue politique ont permis l'organisation d'élections sereines en dépit d'un contexte difficile que connaît notre pays. Les rapports apaisés au sein de la classe politique ont prouvé aux yeux du monde que sur les questions importantes intéressant la vie de la nation, les acteurs politiques burkinabés peuvent s'entendre sur l'essentiel.
Eddie Kombayogo, président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti de l'opposition et de l'ancien président Blaise Compaoré.
En principe, nous devrions discuter sur les élections à venir, c'est-à-dire les municipales, qui procèdent également de l'enforcement de la démocratie. Mais comme vous constatez, la situation nationale est délétère sur le plan sécuritaire. On l'a si bien relevé. Notre pays connaît des attaques meurtrières inédites. Donc il est donc normal que dans ce dialogue politique-là, nous puissions faire la situation et voir quelles sont les dispositions que le gouvernement entend prendre pour pouvoir arrêter cette guerre.
Simon Compaoré, président du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti de la majorité.
Nous vivons dans un contexte suffisamment difficile pour notre pays, pour nos populations. Et donc, ce dialogue politique-là doit être l'occasion pour nous de faire corps avec notre peuple pour que les décisions que nous allons prendre aillent dans le sens de l'unité d'action pour résoudre les problèmes que nous connaissons aujourd'hui au niveau de notre pays, notamment la question sécuritaire, mais aussi les autres défis que nous aurons à connaître.
Un dialogue politique qui intervient plus d'une semaine après l'attaque de Solan dans le Sahel, qui a fait au moins 147 morts et forcé 10 000 personnes à fuir la zone, selon le ACR. Il n'est pas que ces échanges aboutissent à de grandes décisions. Le dialogue politique qui a débuté jeudi prend fin demain samedi. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Ici à Washington, le Congrès américain a approuvé, et le président Joe Biden a promulgué la loi hier, un jour férié pour marquer la fin de l'esclavage. Dans un rare moment d'unité, les républicains et les démocrates se sont mis d'accord sur la date du 19 juin pour commémorer l'émancipation des derniers esclaves au Texas en 1865. Rosine Munezero a joint Mohamed Mouch, professeur d'histoire au Manhattan College à New York.
Oui, c'est une date historique, ce qu'elle est le jour où, disons, le dernier point du territoire américain a été informé de l'abolition de l'esclavage par le président Lincoln suite aux événements de la guerre civile. Donc, c'est un coin assez reculé du Texas qui était membre de la Confédération, donc des États du Sud qui s'étaient rebellés contre l'Union. Et donc, le général Granger, donc le 19 juin 1865, a annoncé par proclamation générale la fin de l'esclavage dans cette zone du Texas et qui finalement est donc la dernière zone du pays où l'esclavage était encore pratiqué.
La société américaine est actuellement confrontée au racisme. Cette date, pensez-vous qu'elle va contribuer à l'apaisement concernant les tensions raciales?
Je pense bien, parce qu'en ramenant devant l'actualité cet événement, qu'une très grande partie des Américains, même noirs, disons, c'est un peu enfoui dans leur mémoire, c'est un peu perdu. Mais en leur rafraîchissant la mémoire, en leur faisant comprendre qu'en réalité, il a fallu une lutte, qu'il a fallu verser du sang et qu'une proclamation qui avait été déclarée en 1862 n'est finalement arrivée quelque part sur le territoire américain que 3 ans après, doit, je crois, rafraîchir la mémoire des gens pour qu'ils comprennent qu'il y a dans l'histoire de ce pays des événements fondamentaux où les Noirs ont été les victimes systématiques du système. Et donc, si on fait le saut jusqu'à présent, beaucoup se diront, mais au fond, les Noirs américains sont toujours derrière. Ici, on a une proclamation de 1862 qui n'est officielle qu'en 1865. Donc, il y a une sorte de symbolisme du retard des Noirs américains par rapport à leurs homologues dans la marche de ce pays.
Mohamed Mouch, professeur d'histoire au Manhattan College à New York. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée, à l'écoute.